Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette station Ozone de la librairie Mola. Il m'a été demandé en tant que doyen de la faculté de droit et professeur de droit pénal d'assurer la modération de cette présentation de cet ouvrage par Laurence Neuer, qui est donc juriste, docteur en droit, journaliste au Point, et qui, selon la préface de l'ouvrage que j'ai parcouru, était déjà une littéraire dans le droit, selon le mot de François Théré et Catherine Puyjolier. Alors peut-être une première question sur vos motivations pour avoir choisi ce thème, sur l'audience élevée, scène de prétoire en correctionnel. C'est vrai que dans l'imagerie populaire, le droit pénal est souvent vu à travers les assises. Et là, vous avez choisi, vous, de vous concentrer sur le petit pénal, donc les correctionnels.
Oui, enfin, le petit et moyen pénal, je dirais. Effectivement, les gens ont l'habitude des assises, des récits d'assises où se mêlent le sang, le sexe, la mort, le sensationnel, le théâtral. J'ai préféré, effectivement, planter ma caméra là où les caméras ne sont pas. Et effectivement étudier, déchiffrer les audiences de correctionnel où il se passe beaucoup de drames humains, beaucoup plus qu'on ne le croit, et qui met en scène une violence parfois sournoise, parfois une violence plus ou moins importante, plus ou moins dense, mais qui peut causer d'énormes traumatismes. Les agressions sexuelles, même des vols de portables dans le métro peuvent causer des traumatismes. Et cette violence, chacun d'entre nous peut s'identifier à cette violence. Et c'est ça qui m'a paru important. C'est que pour moi, la correctionnelle est vraiment un terrain d'observation extrêmement intéressant pour le journaliste et pour tout un chacun. Car elle met en scène toutes ces histoires quotidiennes, dites ordinaires, qui n'en sont pas à mon sens, parce que chaque histoire est pour moi extraordinaire. Et toute nouvelle audience et toute nouvelle affaire est toujours une affaire inédite, nouvelle. C'était là l'objet de ma démarche, c'est d'étudier ce fonctionnement humain, ces déviances, ces transgressions, cette difficulté d'être, ce mal-être, ces personnes sans repère, sans foi ni loi, qui défilent comme ça, un peu toute la misère humaine, qui défilent devant ces magistrats. Ça, c'est côté de l'affaire. Mais également, ce qui m'a intéressé aussi, c'était d'essayer de comprendre cette justice, de la déchiffrer, de comprendre aussi comment les magistrats plongent, j'en cite un, dans l'abîme de juger, car juger, à chaque fois, est une nouvelle aventure pour un magistrat. Et rien n'est simple, même l'affaire qui semble la plus simple, elle n'est jamais simple, car il s'agit non seulement de reconnaître des faits, d'établir une vérité judiciaire, mais également d'appliquer une peine à un individu. C'est toujours un individu qui est là devant soi, et savoir quelle est la peine idéale, la peine adéquate, la peine qui va lui permettre de se réinsérer dans la société, c'est toujours un pari et une énorme difficulté. Voilà.
Alors c'est un ouvrage donc qui est sous forme de fiches, de témoignages, avec d'abord un regard d'expert, un propos introductif, et puis ensuite, vous avez choisi un certain nombre de thématiques. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment avez-vous choisi ces thématiques, le couple et ses démons, donc les violences conjugales, les vols, les violences ensuite, et puis les trafics de drogue, la délinquance sexuelle, les arnaques en tout genre. Quelles sont les motivations, quels sont les critères pour avoir choisi ces différents thèmes?
Oui, en fait, ce sont les affaires qui passent en correctionnel. Et chaque chambre correctionnelle est spécialisée, en tout cas à Paris, mais je suis allée aussi à Lille, à Bobigny, à Dijon, pour suivre des audiences correctionnelles. Et chaque chambre a une, entre guillemets, spécialité. Donc, certaines chambres sont plus spécialisées dans les agressions sexuelles, d'autres dans les vols, d'autres dans les comparutions immédiates. Donc à Paris, ce sont des audiences particulières où les personnes sont jugées quelques heures, voire 48 heures après les faits, en restant incarcérées. Donc toute cette panoplie, on va dire, d'affaires qui touchent à différents types d'infractions, J'ai voulu couvrir en fait le maximum. Ça va jusqu'aux affaires de pédopornographie, puisque maintenant Internet est rentré dans le droit pénal et toutes les délinquances via Internet sont jugées par le tribunal correctionnel. Voilà, donc effectivement.
Et le choix des titres choc. C'est vrai qu'il y a des titres qui sont vraiment bien choisis.
En fait, ce ne sont pas des titres, ce sont des phrases qui sont prononcées dans les audiences. Donc, « Ta fille, je la couperai en morceaux
voilà, »,
c'est
exemple.
Une phrase qui a été prononcée par le prévenu, donc la personne jugée, qui comparaît dans le tribunal, qui a dit ça à sa femme. Outre les violences dont elle a fait état. Donc j'ai toujours choisi pour publier ces chroniques, qui d'ailleurs ont été publiées dans Le Point. On a pris le parti de prendre une petite phrase choc, effectivement, de l'audience, pour la mettre en exergue et pour montrer qu'en réalité, voilà, c'est de la vie, ces audiences. C'est des choses réelles, c'est de la vie, c'est de la réalité brute. Et c'est cette réalité brute, sans fioriture, sans phare, que j'ai voulu raconter, relater, sans complaisance aucune, avec la plus grande neutralité possible. J'ai trouvé que c'était intéressant, non pas pour accrocher le lecteur, mais pour montrer que ces phrases font partie des audiences correctionnelles. Et très peu de gens le savent, puisque... même si les audiences sont publiques, le public est assez rare dans les salles d'audience.
Oui, c'est vrai qu'en vous lisant, je le disais à des étudiants avant de venir, on a l'impression de participer à l'audience. C'est un moyen... justement, quelle cible vous aviez en écrivant cet ouvrage? Parce qu'en vous lisant, moi je suis juriste, vous êtes juriste aussi, on peut avoir une direction vers un public non averti, mais il y a une double lecture. On peut aussi retrouver des choses très techniques et d'ailleurs qui peuvent se poser dans un enseignement ou dans un enseignement de droit.
Donc l'objectif est d'informer. Je suis journaliste, donc pour moi vraiment l'objectif est de transmettre et d'informer. Donc j'informe avec les moyens du bord. Je suis l'observatrice candide. Même si je suis juriste, j'ai mis mes habits d'observatrice candide dans ces audiences et j'ai raconté l'audience sans rien inventer, avec ma sensibilité bien sûr. Voilà. Et par ailleurs, étant juriste, mon objectif aussi, c'est quand même de tirer mes lecteurs vers le haut et de leur apprendre des choses. Donc de leur apprendre ce qu'est un sursis avec mise à l'épreuve, dans quelles circonstances on le prononce. Donc parfois, j'explique pourquoi le magistrat a prononcé tel sursis ou telle peine de prison. Et d'ailleurs, je me suis efforcée de faire un petit lexique à la fin qui explique un certain nombre de notions juridiques que j'emploie dans ce livre. Mais je pense que les lecteurs du Point, vraiment la plupart de mes lecteurs qui m'ont laissé beaucoup de commentaires sous mes articles, étaient vraiment pas du tout informés. Ce n'étaient pas des juristes pour la plupart.
Alors dans les affaires correctionnelles, comme dans toutes les affaires, il y a des faits, puis il y a des personnes qui sont présentes à l'audience, le juge, la victime, l'auteur. Sur le juge, j'ai noté... que vous évoquiez le nombre de dossiers. C'était le 18e dossier à la fin de l'audience, à 21h. Comment vous avez ressenti ce travail des juges en correctionnel?
Il m'a beaucoup interpellée, je dois dire. Parce que je trouve que ce métier de juger... Alors, je voulais vous citer une phrase extraordinaire que j'ai trouvée dans le livre de Denis Salas, qui s'appelle « Le courage de juger ». Et il dit... il parle de plongeon vertigineux du juge dans l'abîme du risque. L'être humain, la folie, la déviance, la violence, l'inceste, les différences culturelles, voilà ce qui attend le juge, ce qui lui saute au visage. Et j'ai vraiment ressenti cela à chaque audience, même si les magistrats, de temps en temps, montrent leur exaspération, leur fatigue, parce que c'est sûr qu'à la suite du 18e dossier, quand il est 11h du soir et qu'il fait moins 3 dehors et qu'il fait nuit, je peux vous dire qu'ils en ont assez de devoir défiler toutes ces personnes. Donc, c'est certain que par moment, ils montrent leur agacement. Ils montrent leur agacement aussi parfois par les questions qu'ils posent, qui sont parfois des questions fermées, un peu directives, qui ne sont pas toujours comprises par leurs interlocuteurs, qui ne parlent pas forcément la même langue, qui n'ont pas été élevés de la même manière et qui n'ont pas la même culture. Et donc parfois, on voit un petit peu une sorte d'asymétrie dans ces dialogues. Cela dit, je trouve que les magistrats, quand même, sont des gens extrêmement courageux. Juger tous les jours en correctionnel, c'est un métier très difficile qui demande vraiment beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience et puis une certaine empathie pour l'autre aussi, un certain plongeon aussi dans cette altérité avec laquelle il faut composer toujours, que ce soit les victimes, la société et les auteurs. Toujours. C'est toujours cette même composante, on va dire, des audiences correctionnelles.
Alors justement, puisque vous parlez des victimes, c'est vrai que vous décrivez des victimes, certaines qui sont vindicatives, mais d'autres, j'ai noté sur une fiche, qui ont tendance à minorer leur préjudice.
Peut-être par peur.
Hein. Notamment dans une affaire où... de violence conjugale,
ah oui, c'est classique.
Où la femme finit par minorer son préjudice. C'était fréquent ce type ou c'était vraiment un cas isolé ?
Non, c'est fréquent. Je veux dire que c'est fréquent. Les femmes, déjà, pour qu'elles déposent plainte, c'est très compliqué. Elles font une démarche très, très difficile. C'est quelque chose qui est vraiment très lourd pour elles. Et une fois qu'elles ont déposé plainte, elles ont encore peur de la vengeance. Elles ont peur, elles se disent qu'elles vont mettre un peu d'eau dans leur vin et que tout va s'arranger. Voilà, elles sont sous emprise bien souvent. Donc effectivement, même à l'audience, elles pardonnent, donc ça, c'est leur parole affichée. Mm-hmm. Mais au fond d'elles, on ne sait pas ce qu'il se passe.
Et les auteurs que vous avez... explorer, on les voit souvent dans le déni. C'est pas moi, j'ai rien fait. Non, ça, moyen de défense assez traditionnel. Si vous deviez faire une typologie des auteurs d'un point de vue psychologique, vous diriez quoi ?
Une typologie.
Les juristes aiment bien les typologies.
Ils aiment bien les cases, les juristes. Ils aiment bien les catégories. Effectivement, il y a les personnes qui sont systématiquement dans le déni. Systématiquement. Ils peuvent être jugés 18 fois. Les 18 fois, ce n'est jamais eux qui ont commis les faits, même si ils sont devant une caméra de vidéosurveillance qui... j'exagère, je caricature vraiment, mais c'est vraiment un déni total. Et là, peut-être que ça relève d'une pathologie. Je ne suis pas psychologue pour le dire. Mais effectivement, ceux qui sont vraiment dans le déni. Il y a ceux qui sont dans l'excuse, mais qui recommencent à chaque fois. Donc, devant le tribunal, alors, est-ce qu'il se dédouble pour effectivement reconnaître qu'ils ont mal agi à un moment donné, mais qu'ils feront tout pour être réhabilités dans la morale et donc, ils ont une sorte de discours comme ça, je vais vers le bien, j'ai fait le mal, je veux le bien, enfin voilà, une espèce de discours un peu manichéen, bizarre. Et puis il y a ceux dont on sent que c'est plus fort qu'eux, ils sont un peu au bord du gouffre de cette délinquance, ils essayent de s'en sortir, c'est un peu le chaos, ils sont déstructurés, mentalement fragiles, et là, c'est ni le déni, ni l'aveu, ni le mensonge, c'est rien. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas s'ils veulent dormir en prison ou ils veulent dormir chez eux. Mais il y en a même un qui disait « je préfère encore dormir en prison parce que j'aurai à manger ».
Je serai au chaud. Oui.
Donc ça, c'est pas très drôle. Et donc, ces gens qui sont paumés, pour en dire le vrai, et ils traînent leur vie là comme un fardeau. Et c'est triste, voilà.
Alors après les acteurs, il y a aussi l'architecture, à quelques moments, l'architecture des lieux de justice. À un moment, vous décrivez ça spécialement pour la justice des mineurs, où vous évoquez que l'endroit est assez rond,
oui.
Pour favoriser peut-être le dialogue et éviter que des lignes rigides...
C'est très intéressant, l'architecture judiciaire.
Il y a une très belle thèse là-dessus, d'ailleurs.
D'Antoine Garapon.
Oui. Vous avez des observations à faire là-dessus, ou c'était vraiment juste limité à la question...
Là, c'était une affaire, et je crois que, si je m'en souviens bien, c'était à Lille, au tribunal de Lille, parce que c'est un tribunal moderne. Mm-hmm. Et donc, les magistrats m'avaient... Enfin, je les avais interrogés sur le fait de savoir pourquoi la salle d'audience était disposée comme ça, en rondeur. Et effectivement, l'idée, c'est de créer une sorte d'empathie, puisque c'était des jeunes... et d'empathie, de ne pas les mettre dans une espèce d'état d'infériorité, et de les faire sentir à l'aise, dans un dialogue possible avec le magistrat, sachant que ce n'est pas le même langage et la même philosophie qui est à la base de ces audiences avec les jeunes, puisque les jeunes, ils entrent dans la délinquance, ils ne sont pas encore mûrs, ils n'ont pas cette maturité nécessaire pour comprendre la justice.
Alors, dans la diversité des affaires que vous avez explorées, auxquelles vous avez assisté, il y a toujours de l'émotion, je suppose, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, parce qu'il y a des déchirements familiaux, il y a des faits qui sont graves, des enfants victimes de délinquance sexuelle. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, qu'est-ce qui vous a le plus ému dans l'ensemble de ces affaires? On peut dire évidemment que tout nous émeut, mais enfin, entre les délinquants de la route, la justice des mineurs ou la délinquance sexuelle, il y a des différences de degrés.
Oui, mais ce n'est pas la nature de l'affaire, c'est plus les personnages. Mmh. Ça peut être un magistrat, ça peut être une victime, un prévenu. Ce qui m'a le plus ému, c'est plus des gens sans repère. C'est plus les personnes qui étaient là sans savoir pourquoi, même côté victime. Vous parliez de ces femmes qui n'osaient pas avouer, qui étaient dans une espèce de soumission parfaite à l'autre, et elles avaient abandonné toute idée d'être elles-mêmes. Enfin, ça va très très loin. Donc effectivement, ce sont des scènes très dures qui m'ont... et ça, que ce soit même une délinquance simple. Évidemment, les agressions sexuelles sont très dures, surtout quand c'est contre des enfants. Il y avait notamment cette scène d'un jeune homme... d'ailleurs, ça fait l'objet d'une chronique assez longue où les magistrats qui n'arrivaient pas à réaliser la gravité des faits, donc ils donnaient rendez-vous à des petites filles sur Internet, etc. Et le magistrat, pour lui, c'était presque normal. Et les magistrats sont devenus fous à l'audience. Mais ils ont vraiment, à un moment donné, je pensais qu'ils allaient sortir de la salle tellement ils n'en pouvaient plus devant une espèce de personne. C'était un mur face à eux. Donc là, c'est le déni parfait. Donc là, c'est vraiment, à mon avis, c'est une vraie pathologie mentale. Alors, c'est pas ce qui m'a le plus ému, mais c'est interpellant de voir quand même, on est face à une personne qui a commis des faits d'une gravité incroyable, même si il a pas tué quelqu'un, mais il a quand même un peu traumatisé des enfants. Après, on ne sait pas ce que ça donnera plus tard quand ces enfants vont grandir. Mais il ne comprenait pas. C'était jusqu'à la fin. Et à un moment donné, il dit bon, oui, effectivement, je comprends, mais par force, pratiquement, c'était plus lui, quoi. Non. Et puis aussi tous ces hommes qui par exemple, je lis une chronique. Votre femme dit que vous l'enfermez sur le balcon pour la punir de fumer. Donc un homme qui s'est tout simplement énervé contre sa femme parce qu'elle allait fumer sur le balcon. Ça a commencé comme ça. Donc des choses, si tu appelles la police, ils retrouveront ton cadavre. Voilà ce qu'a dit un homme à sa femme. En fait, il était en situation irrégulière, donc il a eu ils se sont disputés, mais très gravement, hein, vraiment très très gravement. Il a essayé de l'étrangler, ça a été très loin, des gifles, etc. Et il avait très très peur qu'elle le dénonce parce qu'il était en situation irrégulière. Donc s'il avait été dénoncé, il aurait pu faire de la prison, en tout cas avoir une peine. Et donc, il a eu tellement peur qu'il lui a dit ça. Enfin, voilà, on entend des choses incroyables, quoi, dans ces audiences. Et ce ne sont que des audiences correctionnelles. Bon, aux assises, on sait ce qui se passe, mais même en correctionnel, voilà, c'est assez impressionnant, hein, par moments.
Je reviens sur les magistrats dont vous avez parlé.
Alors, il y a des scènes drôles, hein, quand même.
Oui. Puisqu'on est dans la ville de l'école de la magistrature, j'ai relevé une formule là, au début de l'ouvrage. Le juge est un ingénieur social et pas une machine à produire des jugements. C'est vrai que ça interroge sur la formation des magistrats. Est-ce que vous estimez que les personnes que vous avez eues en face de vous étaient au-delà de la technique juridique bien formées à appréhender, à s'approprier ces problèmes sociaux et à y faire face, ou est-ce que, de votre point de vue, il y a, de ce point de vue-là, un manque ?
Je pense que, s'agissant, par exemple, de procès en comparution immédiate, qui sont vraiment... On appelle ça, à un moment donné, on appelait ça la justice d'abattage, parce que... trois quarts d'heure par personne, grosso modo, pas une minute de plus, parce qu'il y a 25 audiences dans l'après-midi et on n'a pas envie de se coucher à 5 heures du matin. Donc forcément, à un moment donné, on place la barre quelque part et on dit, bon ben voilà, on va renoncer à exploiter toutes les failles et toute la densité humaine qu'il y a dans ce dossier. Et on va mettre l'accent sur les faits, rien que les faits. Monsieur, vous avez volé ? Oui, non. Vous reconnaissez les faits ? Oui, non. Voilà. Donc on a une sorte de questionnaire, mais d'audition qui se passe de manière assez dure, assez cadrée. Voilà. Mais ils n'ont pas trop le choix non plus. Ils n'ont pas trop le choix non plus parce que malheureusement, le temps, voilà, nous sommes faits de temps, ces audiences sont faites de temps, et il faut bien juger tout le monde, parce que si on renvoie l'affaire, c'est encore plus grave, la personne va encore attendre 2 mois ou 3 mois pour être jugée. Donc ça, c'est pas possible. Donc peut-être qu'effectivement, il faut recruter plus de magistrats, plus de greffiers, il faut doubler le nombre d'audiences, je ne sais pas. Il faut en tout cas faire face à cette délinquance, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Cela dit, vraiment, les magistrats, je les ai trouvés extrêmement courageux. D'une manière générale, ils essayent quand même, par moment, quand ils ont le temps, de rentrer dans les interstices du dossier, d'essayer de comprendre ce qui est passé par la tête de la personne qu'ils ont en face d'eux. Surtout quand ils sentent que la personne a quelque chose pourra se réinsérer plus facilement, que c'est un accident de parcours. Donc, ils sentent ça, parce qu'évidemment, ils connaissent, ils touchent ça tout le temps. Donc effectivement, ils essayent d'essayer de comprendre, et ils essayent surtout de tirer la personne vers le haut. Monsieur, vous n'avez pas recommencé, parce que c'est dommage dans votre vie de rater votre vie à cause de ça. Donc, ils essayent de... Bon, il y a des petites leçons de morale systématiquement, mais... C'est pas mauvais non plus face à des personnes qui sont sans repère et à qui on n'a pas expliqué ce que c'était qu'un cadre dans la vie. Voilà, donc je pense qu'ils font bien leur boulot d'une manière générale, de manière, si je peux m'exprimer un peu crûment, parce que c'est dur, même si de temps en temps, on sent que ça dévie un peu parce qu'on est fatigué, parce qu'il est tard, parce qu'ils ont eu 10 personnes qui ont nié des choses évidentes et que n'importe quel humain, et la justice est humaine, n'importe quel humain face à ces situations... À un moment donné, craque. Voilà, tout simplement. Mais en même temps, la justice est humaine et on aurait un algorithme devant soi, ce serait bien pire, je pense.
Le parquet n'aime pas les menaces avec un couteau, je vois. Le parquet, qui a une spécificité française, puisque dans la justice anglo-saxonne, la victime n'a pas accès à... Il n'est qu'un témoin et ne peut pas être partie au procès. Et en France, donc, nous avons une victime, nous avons un auteur, et puis nous avons le parquet. Comment vous avez situé le rôle de ce magistrat ?
Mais il y a parquet et parquet. j'ai senti les magistrats du parquet un peu dans la même... dans la même humeur, on va dire, que les autres, enfin que les magistrats du siège. Évidemment, le parquet a pour rôle ce rappel à la loi systématique. ce rappel de l'atteinte à la sociale, sociétale, de l'infraction, ce rappel notamment dans les infractions, donc, parce qu'il y a toute une partie sur la drogue, par exemple, les affaires de drogue font du mal à la santé. Donc les parquets sont extrêmement sévères, extrêmement durs à l'égard des délinquants, des trafiquants de drogue ou des consommateurs, parce que ils mettent en avant la santé d'eux et la santé des autres. Donc ça, c'est vraiment, on sent des politiques pénales derrière qui sont très affirmées. Pour le reste, des infractions simples. Le parquet s'en tient souvent au strict minimum, puisque vous avez pris le portable de Madame Machin dans le métro, la personne reconnaît, donc là il n'y a pas grand-chose à dire. Ou quand la personne ne reconnaît pas, il n'y a pas non plus grand-chose à dire, puisque on a des preuves, on a des témoins, on a une caméra de vidéosurveillance, bon, c'est pas très compliqué. Je veux dire que le travail se fait plus au niveau des magistrats du siège, même si, dans certaines affaires, le parquet rappelle des choses fondamentales. Je ne veux pas du tout minimiser le rôle du parquet, puisque justement, dans des affaires justement d'agression sexuelle, d'agression de violence conjugale contre les femmes, là, on a des parquets extrêmement vigoureux qui rappellent qu'il y a un meurtre, une femme assassinée tous les deux jours sous les coups de son conjoint. Donc là, on a toujours des rappels comme ça à l'audience qui sont absolument nécessaires, qui sont des rappels d'information même pour le public. Donc effectivement, dans les grandes affaires qui mettent en scène des sujets de société, agression sexuelle, violence conjugale, affaires de drogue, santé publique, le parquet tient son rôle comme il faut.
Merci moi aussi de m'avoir fait participer, parce que je me servirai de votre ouvrage.
Merci, monsieur le professeur, pour mes études. De m'avoir fait l'honneur de votre présence, en tout cas. Merci beaucoup.
Merci à tous.